Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure. C'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, on a du monde dans le studio et c'est un peu mixte d'ailleurs, vous allez voir. Hein. Je ne parle pas de genre, mais je parle d'espèce. Aujourd'hui, on accueille le Club Canin de Saint-Paul-et-Dax, SPECA. Nous avons notre studio Eric Pouey, Jackie Béré-Cochea et nous avons Uka. Bonjour tous les trois, comment allez-vous ?
Ça va très bien, merci, bonjour.
Eh bien écoutez, ça va très bien, bonjour.
Voilà, donc Ika nous dira peut-être bonjour au cours de l'émission, elle est là. Donc c'est une très très gentille et dynamique chienne. Bon là elle est calme, c'est très, très calme.
Elle mange.
Ah ben voilà. Et aujourd'hui, ben, vous avez deviné de quoi on va parler, hein. On a un club canin, vous avez une idée de quoi on va parler. On va d'abord écouter le Flash Info national et international et on retrouve ensuite nos invités pour la première partie de cette émission. Et nous voilà de retour, c'est parti pour la première partie de cette émission. Alors la tradition ici, messieurs, c'est qu'on demande un petit peu aux invités une petite bio, une petite trajectoire personnelle pour avoir un petit peu une idée de qui ils sont. Voilà, donc je ne sais pas si Uka nous dira quelque chose de consistant, parce que...
C'est pas impossible.
Oui, c'est bien.
On va voir. On va la laisser se préparer voilà. Mentalement.
C'est ça, parce qu'elle est un peu stressée, oui. C'est la première fois qu'elle passe à la radio.
Ben oui, là quand même.
C'est pas évident quand même. Hein. Alors, qui est-ce qui se lance ? On va commencer par Eric, peut-être ?
Eh bien, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Eric Pouey. Je suis... Alors, professionnellement, j'ai eu un parcours un petit peu long. Et depuis quelques mois, ben, je profite de ma retraite. Je suis un jeune retraité.
Oh, la chance !
Ouais. Et puis voilà. Donc là, ça fait 7-8 mois. Et voilà. Et accessoirement, je suis membre du club SPECA depuis... ça doit faire 12-13 ans, à peu près. 14 ans, même. Et j'en suis le responsable depuis une dizaine d'années.
D'accord. Alors du coup, avec cette retraite qui vient d'arriver, ça veut dire encore plus d'engagement dans l'association, encore plus de temps passé ou d'autres diversifications des activités peut-être ?
Alors le club, effectivement, c'est assez chronophage hein, puisqu'on fonctionne mercredi et samedi, mais il y a tout le travail que peut réclamer une association, les entretiens de terrain, les contacts avec les adhérents, petites choses. Et ça m'occupe pas plus ni moins qu'avant. Et je profite également de ma retraite pour faire depuis quelques mois, je suis bénévole au village d'Alzheimer.
Ah, très bien.
Où j'interviens une fois par semaine.
Ouais, très bien. Bel endroit, très bien.
Voilà.
Merci beaucoup. Et on va passer à Jackie s'il a quelque chose à nous raconter. Ah, voilà.
Bon, Uka, je vais commencer par faire l'interprète.
Oui, voilà.
Donc Uka est contente d'être là.
Voilà.
Elle salue tous les auditeurs, n'est-ce pas ? Voilà.
Très bien.
Alors quant à moi, je m'appelle Jackie Béré-Cochea. Je suis musicien de métier, demi-retraité puisque je crois qu'on n'arrête jamais ce métier-là tant qu'on a. On a la vie et la force
métier, est-ce un métier
de jouer.
N'est-ce pas plus qu'un métier ?
Bah, j'ai coutume de dire que comme je ne sais rien faire d'autre, c'est mon métier.
Voilà.
Donc moi je suis venu au club il y a un peu plus de deux ans avec cette chienne, tout simplement pour la faire éduquer, parce que j'ai eu quelques chiens et j'aime bien qu'ils soient bien éduqués, puis faire quelques activités de loisirs avec eux. Et au bout de quelques mois, à ma grande surprise, on m'a demandé si je voulais pas devenir éducateur.
Paf.
Voilà, alors j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de limite d'âge dans ce domaine-là.
Non, et, pas de DLC.
Et, voilà. Et après quelques temps de réflexion, ben, j'ai donné mon accord et voilà, je suis encore presque stagiaire, on va dire. Un peu.
D'accord, bon, il en faut.
Voilà.
Bah alors parlons un petit peu de votre club. Alors donc vous parlez de quelques années. Alors on va parler un petit peu de l'historique et là où ça se passe et qu'est-ce qui s'y passe.
Alors le club il est situé route des Serres à Saint-Paul-les-Dax. Bon, géographiquement c'est dans le périmètre du Grand Mail. C'est un club qui est ouvert donc qui est tenu par des bénévoles. Donc ça c'est important parce que la notion de bénévole voilà est importante dans la démarche.
Oui.
Le club fonctionne le mercredi et le samedi en deux parties. Donc mercredi matin on va dire que c'est la partie un petit peu scolaire où là on a des cours en fonction des âges des chiens par groupe de travail. Le mercredi après-midi c'est est partie. Alors on l'appelle sport canin, ludo éducatif, un petit peu comme on veut. Le centre de loisirs aussi, ça peut marcher. Et là, on a des éducateurs qui sont également moniteurs de différentes disciplines et qui peuvent apprendre aussi bien au maître qu'au chien à pratiquer des activités telles que le hooper, l'agility. On avait avant le flyball, mais maintenant c'est un petit peu en sommeil. Voilà. Et le samedi, même chose. Samedi matin des cours et samedi après-midi des activités sportives.
D'accord. Alors combien est-ce qu'il y a de personnes alors
C'est très fluctuant. Je pense que sur l'année, lycée sur l'année, on doit être à peu près une centaine d'adhérents environ. D'accord. Mais bon, voilà, sachant que sur ces 100 adhérents, tous ne viennent pas bien évidemment à tous les cours. Donc on a un taux de fréquentation mais qui est très variable. En fait, ça dépend de la météo, ça dépend des périodes, ça dépend de plein de choses. Mais on peut avoir, tu me corriges, Jackie, mais une quinzaine de chiens à peu près présents pendant les cours. Et l'après-midi, donc pour les activités sportives, c'est encore plus fluctuant parce que ça dépend de l'activité, ça dépend de plein de choses.
D'accord. Alors qui est-ce qui vient vous voir et pourquoi? C'est quoi la trajectoire du voilà? Ben on en a.
Il y a des gens un peu comme moi qui sont attachés quand ils prennent un jeune chiot à l'éduquer correctement, à pas faire de bêtises avec lui, à faire en sorte qu'il soit heureux, bien dans ses pattes. Il arrive aussi qu'il y ait des personnes qui viennent avec un chien un peu plus âgé, de 8 mois, un an et demi, parce que ils n'ont rien fait avant et ils se rendent compte que il y a des choses à gérer qu'ils savent pas trop faire, donc ils viennent pour rectifier ça. Et en général, ce sont toujours des gens qui ont le souci quand même d'être bien, de vivre bien avec leur chien et de rendre leur chien heureux. C'est pas mal.
C'est aussi un moyen de passer un moment avec son chien, de partager des choses, comme on pourrait faire. Faire les analogies avec les enfants sont toujours dangereuses avec les animaux, mais comme on peut aussi avoir envie de jouer au foot ou je sais pas quoi avec son gamin, on se dit tiens, mon chien, si on va faire une activité ensemble, ça peut être sympa.
Ouais, c'est un autre abord en fait du fait d'avoir un chien. Donc ça permet aux gens, effectivement, ils viennent au club un petit peu pour leur chien. C'est pour ça que tout à l'heure je disais centre de loisirs, parce que c'est un petit peu, voilà, quand on parle de cours d'éducation, ça reste ludique. Ce sont des voilà. Et quant à la fréquentation, quant aux gens, on a un petit peu tous les types. Ouais, des gens qui adoptent un chien, des gens qui adoptent un chiot, qui ont assez souvent, on a des gens qui prennent un chien d'une race X, ils ont toujours eu ce genre de chien, et le nouveau a un comportement un petit peu différent, donc il y a un peu la panique qui s'installe au sein du foyer.
Oui.
Donc on vient un petit peu corriger ça.
C'est ça, oui, parce que voilà, un chien, c'est un animal éminemment social, hiérarchique. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que, comment dire, il y a presque des similarités. Les chiens, ils font partie de la famille, ils font partie de la cité aussi. Il faut qu'ils trouvent une place, celle qu'on leur donne quelque part. C'est parce que j'ai cru comprendre, je suis pas un spécialiste, c'est vous, que il y a une structure hiérarchique qui est très importante pour le chien. Il faut qu'il sache un peu se situer où il en est.
Je sais pas s'il s'agit vraiment de hiérarchie, mais ce qui est important, c'est que le chien se sente dans un milieu sécurisé, avec des règles claires, moyennant quoi il est équilibré et peut éliminer pas mal de problèmes qu'on pourrait avoir éventuellement avec lui. Puis ça, évidemment, ça dépend des chiens. Et,
oui.
Et si on prend un chien de travail qui est fait pour courir derrière des troupeaux et qu'on voudrait qu'il reste tranquille sur un canapé...
Ah, le pauvre.
Ça marche pas trop, quand même.
Ouais. Malheureusement, c'est des choses qu'on peut voir des fois. Il y a une mode sur les huskies, je me rappelle, il y a quelques temps. Moi, j'ai vu des huskies enfermés sur des petits balcons de 5 mètres carrés. Super. Enfin, je veux dire, on parle de maltraitance, hein.
En fait, je pense qu'il y a aussi un travail, alors c'est un vaste débat, mais il peut y avoir aussi un travail des éleveurs qui devrait peut-être plus en amont savoir dans quel milieu va évoluer le chien,
ouais.
pour éviter effectivement, c'est un petit peu la fréquentation qu'on a aussi au club, le genre de soucis auxquels on peut être confronté, sont des gens qui viennent en ayant pris un chien, alors c'est un petit peu le coup de cœur qui fait pas forcément que du bien,
oui.
et on a des chiens, ben, Jackie parlait des chiens de troupeau, c'est le cas, puisqu'actuellement il y a une mode pas mal sur le berger australien,
ben.
On voit pas mal de gens qui prennent un chien, parce que voilà, la peluche est mignon, c'est petit, quand c'est chiot, c'est joli, tout ça, très bien, mais bon voilà, ce sont des animaux qui ont besoin d'être sollicités aussi bien physiquement que mentalement.
Oui.
Et tout ça, ça participe à son équilibre ou pas, justement, s'il n'y a pas un petit peu de sollicitation intellectuelle tous les jours.
C'est vrai qu'il faut savoir les cadrer, parce que moi j'ai déjà vu des cas de chiens, on parlait de berger australien, les chiens de berger en général, si on va se balader avec eux dans la montagne et qu'ils croisent un troupeau, il faut pas qu'ils prennent en main le troupeau, ça peut vraiment poser des problèmes. J'ai vu des chiens, ils foncent, ils cherchent pas à comprendre, ils foncent.
Et Uka, que vous voyez là très calme, elle a un besoin incroyable de travailler, d'apprendre des choses, se dépenser physiquement et mentalement, important. Moyennant quoi, c'est tranquille. Il y a une chose qui m'a traversé l'esprit là, que je trouve importante, c'est que le fait que les gens viennent finalement assez nombreux dans ces clubs, ça a à voir aussi avec une évolution générale, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à une période très récente, le chien, c'était un bien meuble.
Oui, les animaux de compagnie, c'était ça faisait partie des biens immobiliers, c'est vrai.
Voilà, et depuis très récemment, c'est considéré comme un être sensible.
Oui. Moins de deux ans, je crois.
C'est tout récent.
Ouais. Mais bientôt, ils auront le droit de vote, peut-être.
Écoutez, on verra.
Avant les IA, j'espère.
C'est l'étape au-dessus.
On va faire une première pause, écouter un petit peu de musique et on retrouve ensuite nos invités. Voilà, de retour, ça fait longtemps, qu'on ne s'était pas fait un petit Gotenner, ça faisait longtemps. Retournons à nos chiens et pas à nos moutons. Vous avez une méthode d'éducation. Alors, le terme éducation, est-ce qu'il est... galvauder dans cette utilisation-là, ou ça vous convient ?
Non, du tout. On préfère éducation que dressage.
Voilà,
dans tous les cas de figure.
Voilà, parce que là, vous êtes plus avec un partenaire, on va dire, le chien. Une méthode positive et éthologique. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Dites-moi, qu'est-ce qui se cache derrière ces termes scientifiques ?
C'est très bien de dire scientifique, déjà, parce que l'éthologie, c'est une science. Effectivement une science qui s'attache à étudier les comportements des animaux. C'était quoi la question ? Ah oui, la méthode positive.
Bonjour, je m'appelle Jackie.
Alors, c'était sur la mémoire.
C'était ben, raté.
Alors, la méthode positive, on l'appelle aussi naturelle ou éthologique. Moi, je préfère, parce que positive, ça fait un peu permissif. On a essayé ça avec les gamins aussi. On peut l'opposer à la méthode coercitive qui était employée jusque-là, c'est-à-dire qu'on faisait... faire aux chiens ce qu'on voulait par la force, par la crainte, quand c'est pas par la violence. En gros, on arrivait à faire ce qu'on voulait avec un chien, mais avec un chien qui était tout le temps en état de stress. Méthode positive, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de lui taper dessus quand il fait quelque chose de pas bien, on attend qu'il fasse quelque chose de bien, ou l'incite à faire quelque chose de bien, et on le récompense.
Oui.
Et ça crée vraiment une grosse complicité entre le maître et le chien. Ça fait que le chien réfléchit. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un animal très opportuniste. Donc il fait très vite l'association entre quelque chose d'agréable qui lui arrive, en l'occurrence une friandise souvent, et ce qu'il a fait au moment où il a reçu ça. Ça marche impeccable. Et c'est vrai que ça crée une connivence entre le maître et le chien qui sont super. Et pourquoi éthologique ? Parce que ça s'inspire des découvertes de l'éthologie. En fait, on s'aperçoit que les chiens savent déjà faire des tas de choses. Donc il nous suffit de trouver le moyen de les amener à les faire et à les perfectionner, à les développer quand on veut.
Oui, c'est vrai. Alors, pour ce qui est, comment dire, le chien, on parlait de caractère, la personnalité, etc., et que ce ne sont plus des meubles, et on parlait de science, mais en fait, on a déjà fait ce qu'on appelle des IRM fonctionnels du cerveau sur des animaux, et les scientifiques se sont rendus compte, récemment, c'était vraiment validé, qu'en fait, ils ont aussi une vie intérieure, comme nous, on en a une, c'est-à-dire, des fois, on a une voix, on parle tout seul dans notre tête, des fois. Alors, je ne dis pas que les animaux parlent tout seuls, mais on voit qu'il se passe quelque chose dans leur cerveau, est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils imaginent? Est-ce qu'ils rêvent? Bon, on n'en est pas encore à savoir quoi, mais c'est pas la matière inerte, ils ont vraiment une sensibilité, etc. Et ça serait mensonger de le nier, ça.
Réfléchir, c'est certain qu'ils réfléchissent.
Moi, je suis convaincu qu'ils réfléchissent.
Ouais. Des fois, vous proposez un exercice où justement vous laissez le chien un petit peu en attente, vous voulez l'amener à quelque chose, à lui faire faire quelque chose, le chien va vous proposer plein de solutions. Plein de voilà, il va essayer de trouver plusieurs chemins et en fait selon votre réaction où il va abonder dans ce sens, où il va partir, il est capable de s'adapter effectivement à la demande de chacun.
Oui. Alors vous parliez aussi tout à l'heure on parlait des gens qui viennent vous voir qui ont un chien, vous parliez d'éleveurs. Alors c'est quoi l'accès au statut de maître souvent, c'est plus de l'adoption style SPA par des copains, etc. Ou est-ce que les gens encore ils achètent parce qu'on parlait quand même du statut d'objet que les animaux n'ont plus, mais est-ce que ça se fait beaucoup toujours les éleveurs de chiens, les gens achètent un chien de race, alors, etc.
Chien de race, alors nous on a une structure qui s'appelle l'école des chiots, donc c'est quelque chose où on reçoit des jeunes chiens entre 3 et 8 mois. Je pense que ça s'est un petit peu équilibré. Je pense qu'il y a quelques années de ça, on voyait peut-être plus de chiens directement sortis d'élevage qui arrivaient au club. Là, non, je pense que la proportion est équilibrée entre les chiens. Je pense qu'il y a un petit peu une montée en puissance des adoptions. D'ailleurs, cela dit, petite parenthèse pour dire que les SPA et les refuges sont pleins à craquer.
Oui, on a reçu le refuge de Saint-Paul il y a pas très longtemps.
Oui. N'hésitez surtout pas à aller les alléger d'un chien si vous pouvez.
Ben oui.
Honnêtement, entre chiens entre guillemets d'éleveurs, donc dotés d'un lof, donc livré des origines françaises, ou un chien issu d'un croisement de chiens, il n'y a aucune distinction. Il n'y a pas de souci.
D'accord. Peut-être que les gens hésitent aussi à prendre un chien qu'à un certain âge. Est-ce que c'est un vrai handicap quand on vient vous voir si on a un chien, comment dire, qui est tout neuf, tout jeune, tout petit? Ou alors est-ce que le chien qui a déjà quelques années du vécu, est-ce qu'on peut encore le récupérer, entre guillemets, lui de redonner des attitudes qui sont plus acceptables? Comment ça se passe?
Alors, le chien apprend à tout âge. Après, bien évidemment, c'est plus simple de le faire rentrer dans une logique éducative quand vous démarrez tôt, c'est-à-dire à peu près à 3 mois. Mais après, non, un chien qui arrive à 5-6 ans peut être tout à fait éduqué. Après, voilà, il faut comprendre qu'il faut, entre guillemets, le formater un petit peu, le faire repartir sur des bases neutres pour lui donner après un petit peu d'éducation. Mais non, le chien, il prend à tout âge.
Alors, on en a parlé aux antennes, y compris le maître. Parce qu'on parle d'éducation, c'est bien souvent un repositionnement de maître par rapport à son chien qui n'a peut-être pas pris conscience, il n'a pas l'habitude, de qu'est-ce que c'est d'avoir un chien, comment ça fonctionne vraiment et qu'est-ce qu'on fait avec.
C'est l'essentiel des problèmes. Oui.
Ouais, et puis voilà. Ça, là, il y a une responsabilité aussi des éleveurs, les bons éleveurs font attention, ils ne donnent pas un chien à n'importe qui.
Oui.
Et de ce que je connais des SPA, je trouve qu'elles font, celles que je connais, elles font un travail excellent. C'est-à-dire qu'avant de donner un chien à l'adoption, elles renseignent bien l'acquéreur, elles se renseignent, elles font vraiment pas n'importe quoi.
Oui.
De ce que j'ai vu.
Oui, parce que c'est pas anodin, comme on dit, c'est pas un objet de consommation, c'est un être vivant, donc le mode d'emploi, il est pas simple.
Hein, non. Il y a effectivement un mode d'emploi. Après, les clés, nous éducateurs canins, en fait, on ne fait que proposer des clés à chacun de les travailler. Mais voilà.
Ouais. Ce qui fait qu'effectivement, ça peut être effectivement une trajectoire d'un adoptant, c'est-à-dire se dire, je vais adopter un chien et je vais me diriger après vers des gens qui savent, qui vont m'expliquer, qui vont m'aider. Voilà. Donc,
D'ailleurs, on a une espèce de... c'est pas une convention, parce que c'est quelque chose qui est tacite, mais les gens qui prennent des chiens donc dans les SPA peuvent venir chez nous au sein du club. On leur propose quelques leçons gratuites pour, histoire de... Parce qu'étant une association, on est à but de... lucratif, bien évidemment. Donc on propose quelques séances comme ça pour un peu voilà, savoir où on met les pattes. Et ça fonctionne plutôt bien parce que les gens, voilà, il faut calculer en fonction, il faut voir en fonction également du vécu du chien, parce que les chiens sortant de SPA, ça peut être un chien qui a été récupéré, qui est parti en fourrière un jour ou deux, qui part à l'adoption de suite. Donc il n'y a pas à proprement parler de traumatisme, si on peut dire. Et il y a des chiens qui sortent de SPA après 2 mois, 3 mois, 6 mois de boxe. Et bon, là, il y a un peu des choses à corriger.
Quoi. C'est vrai, oui. On va faire une nouvelle pause. Écoutez, le flash info local, ça me faisait penser à I Love My Dog. Je pense à Olivia, qu'on a déjà reçue à l'Astor Radio, qui reçoit tellement de chiens issus de l'expérimentation animale qu'elle fait vivre en meute. Hein. Et puis, c'est toujours la même race de chiens. C'est des... comment ils s'appellent ? C'est
des beagles.
Des beagles, ouais, voilà. Beagles. Et oui, parce que et pourquoi on prend des beagles ? Parce que eux, en fait, ils mordent jamais, ils se rebellent jamais et ils subissent sans rien dire. Voilà, c'est vraiment moche à dire, mais voilà, c'est comme ça. Allez, on se retrouve pour, après ce flash info, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Bon, je rassure les invités, l'émission sera finie dans pas très longtemps parce qu'on commence déjà à parler un petit peu apéro hors antenne, donc on commence à chauffer la machine.
Où sont les glaçons d'ailleurs ?
Ouais, il y en a pas ici.
Passe-moi les cacahuètes.
Alors, on va parler un petit peu de vos activités. Vous parlez des il y a des cours d'éducation canine et il y a des activités alors du sport canin.
Ouais.
Donc moi je ne connaissais pas ni les termes. Donc moi j'ai vu complicité, agility, flyboy, hoopers. Mais qu'est-ce donc que ces activités ?
Alors, je pense que le plus connu c'est l'agility. L'agility, c'est un peu comme les concours pour les chevaux.
Ah oui, voilà, saut d'obstacles.
Voilà, saut d'obstacles, il y a des obstacles. À part que pour les chevaux, il n'y a pas les balançoires et tout ça, parce que ça serait un peu risqué, à mon avis.
Oui, ça, oui.
Voilà, il y a des passerelles, tunnels, des...
Et par contre, du combattant un peu.
Ça peut être un peu ça, oui. Et donc, quand il y a des concours, il y a un juge qui fait un parcours, les obstacles sont numérotés.
Oui.
En général, si le maître est bien, le chien sait ce qu'il a à faire.
Oui.
Et quand il y a des ratés, ça vient très souvent du maître.
Voilà. Oui, voilà.
On court, on rate un numéro, on ne sait plus. Oui. Bon, bref. Donc ça, c'est pour l'agility. Le hooper, ça pourrait ressembler un peu à l'agility, mais le chien doit être beaucoup plus autonome, puisque le conducteur doit rester dans une zone délimitée et conduire son chien à distance. Alors le hooper, c'est très bien parce que les chiens qui ont des problèmes de dysplasie notamment, ou osseux, peuvent le faire parce qu'il n'y a pas de saut.
Oui.
Il n'y a pas d'obstacle.
Là, c'est des tunnels, c'est
sauter.
Ça. Hein il y a des tunnels dedans.
Oui, c'est des petits. C'est même pas des tunnels, c'est des petits arceaux. Et il y a un ordre. Il faut passer derrière.
Il faut passer dedans.
Comme au criquet, quoi.
Autour. Il faut zigzag et il faut revenir et tout.
Et c'est respectueux pour le squelette du chien.
Voilà. Et il n'y a pas de choc.
Ouais. C'est l'agilité adaptée pour le personne âgée.
Ouais. l'agilité, les chiens peuvent pas commencer, je crois, avant que c'est 16 mois, je crois. Que le squelette est déjà une certaine maturité.
Oui.
Par contre, le hooper, on peut mettre quasiment des chiots au hooper. Le hooper, en fait, on peut aussi faire le parallèle avec... C'est un petit peu inspiré du travail au troupeau. C'est-à-dire que le maître, à distance, va envoyer son chien faire un petit parcours dans un ordre bien précis, mais encore une fois, en étant respectueux du squelette du chien. En fait, une des grosses différences également entre l'agility et le hooper, c'est que l'agility, le maître doit courir avec son chien. Il doit même peut-être des fois courir plus vite que son chien, ce qui n'est pas toujours simple, que le hooper, le maître reste dans un carré, qui fait je ne sais plus quelle taille, 2 mètres sur 2.
Suivant les niveaux, le carré est de plus en plus petit.
Voilà, et en fait le maître reste statique, si on peut dire, et envoie son chien passer. Donc voilà, le hooper, c'est une discipline qui monte, c'est une discipline qui doit avoir quelques années d'existence. À mon sens, un de gros avantages, c'est que tu es accessible au plus nombreux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des maîtres qui ne veulent pas courir, qui peuvent très bien faire du hooper avec un chien qui peut courir.
Oui.
On avait au club, pour l'anecdote, je crois que notre plus vieil adhérent avait, je crois, pour l'un de 80 ans, et n'aurait jamais raté une session de hooper pour rien au monde.
Bien sûr. Alors c'est marrant parce que On imagine, parce que quand on ne sait pas, mais comment est-ce qu'on apprend un chien vraiment ce qu'il doit faire, etc. C'est compliqué, il comprend très vite en fait, parce que vous devez vous appuyer sur son intelligence pour qu'il arrive à faire ce genre de parcours d'obstacles, j'imagine.
Oui, puis son intérêt, son opportunisme, c'est toujours la même chose, c'est un peu l'histoire de la méthode positive.
La récompense.
Après, on leur apprend tout petit, même s'ils ne sont pas destinés à faire de l'agility, la école des chiots, on leur apprend à passer sur des choses bizarres, des passerelles, mais qui sont
pas stables,
ras du sol, des textures bizarres, des mini balançoires. Alors là, c'est pas dans le but de faire de l'agility, mais c'est pour, je sais pas, on va se promener au marché à Dax, il y a des grilles.
Voilà, c'est vrai.
Il faut pas que les chiens aient peur de poser leurs pattes.
Oui, c'est vrai.
N'importe où.
C'est vrai qu'il y a des chiens qui, on le voit d'ailleurs, il y a des chiens qui, quand ils arrivent en se balade dans les Barthes, quand ils arrivent une barrière canadienne, ils sont complètement paumés. Il y en a d'autres, ils passent en rigolant. Ils sont pas du tout gênés.
Ouais. En fait, le chien peut avoir peur en fait de l'inconnu. Donc dès le plus jeune âge, dès que vous allez le mettre dans différentes conditions, plus vous allez lui montrer de choses, en fait, plus il va acquérir de savoir et sera bien dans ses coussinets.
On va parler aussi d'une chose importante, c'est la section spéciale des chiens visiteurs. Parlons des chiens visiteurs. Alors ça c'est chouette.
Alors ouais, ça c'est quelque chose qui est un petit peu hors du, enfin c'est pas un sport canin en fait. Les chiens visiteurs, c'est une chose qui doit avoir une quinzaine d'années à peu près d'existence. En fait, ce sont des couples maître et chien qui se déplacent. Alors avant, on se déplaçait dans les écoles, maintenant un petit peu moins, mais on peut se déplacer dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. On a également, on travaille pas mal avec le village Alzheimer. Et en fait, on utilise la facilité qu'a le chien de générer un contact pour faire entre guillemets du bien aux résidents. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, des fois le personnel va avoir du mal à faire bouger une personne un petit peu âgée, un petit peu alitée ou comme ça, lui faire bouger un bras. Par contre, caresser un chien va devenir un acte naturel. Ça peut être intéressant aussi pour faire de la motricité. Les personnes âgées sont pas toujours pas toujours envie de quitter le fauteuil pour aller marcher. Là vous mettez le chien en double laisse parce qu'il y a toujours une protection de la personne visitée et du chien, et se balader en double laisse, ça fait remonter des souvenirs puisque le chien étant partie intégrante de la famille, dans des environnements un peu particuliers que peuvent être les EHPAD, ça fait remonter un petit peu des choses. Voilà, ce sont des visites qui durent, ça doit durer une heure à peu près. On amène un petit peu un rayon de soleil. Et c'est quelque chose qui, au début, on nous regardait un petit peu de travers. Là, quand on arrivait avec nos chiens dans les EHPAD, la relation n'était pas simple à établir. Et très rapidement, c'est nous qui avons été contactés. Parce qu'effectivement, il y a un bien qui est prouvé, si on peut dire.
Oui, voilà, ça c'est vrai. Alors, on en parlait aux antennes avant cette émission. C'est vrai que moi, j'ai déjà vu des études, j'ai regardé. On sait, ne serait-ce que juste le fait qu'un chien ou un autre animal rentre dans une pièce, si on prend le rythme cardiaque ou la pression artérielle d'une personne, à fortiori une personne âgée, de suite on peut mesurer un changement physiologique dans son corps.
Ah ouais, voilà. ça marche au village Alzheimer, alors c'est pas des chiens qui viennent, de temps en temps c'est des vaches. La présence de l'animal a un côté un petit peu puis encore une fois ça peut faire remonter des souvenirs. Dans l'immense majorité des cas, le chien au sein du foyer, ça a été un vecteur de bonheur. Ça fait remonter des souvenirs par rapport aux enfants, par rapport à un temps passé. Et les chiens visiteurs, en fait, ça met à profit cette faculté de créer facilement un lien avec donc les personnes visitées.
C'est vrai que le chien est un animal qui est vraiment très fort pour créer du lien, justement, hein, plus que... On parle souvent du chat, le chat, en général, j'ai la différence entre un chien et un chat, je dirais que le chien a un maître, et le chien a un maître, et le chat, en fait, c'est l'inverse.
En fait, le souci, alors ça, je peux en parler, parce que j'ai quelques chats à la maison, en fait, quand vous avez un chat, vous vivez chez lui.
Ouais, c'est ça.
Il faut s'adapter à la vie du chat.
Voilà, c'est ça, c'est pas du tout la même chose.
Non, c'est pas du tout le même truc, non.
Ce qui n'est pas forcément... Voilà, c'est un animal intéressant, le chat aussi, passionnant.
Je suis passionné passionnés par les félins. Donc ouais. Oui, c'est très intéressant.
C'est vrai, quand on regarde sur Internet les statistiques de vues de vidéos, je crois même que ça dépasse le porno. Les gens passent des heures à regarder des vidéos de chats. Ça, c'est un truc, c'est fou. C'est
alors là, qu'est-ce qu'on doit dire, Jackie, là, le temps de... On regarde que des vidéos de chats et de chiens, de toute manière.
Bah oui,
c'est ça. Que les chiens.
Ah oui, que des chats.
Vidéos de chiens,
oui. Non.
Eh bien, on va faire notre dernière pause, messieurs. Écoutez encore un petit peu de musique. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec Eric et Jackie. Et
encore nous. Et Lucas. On est toujours là.
Et Lucas, bien sûr. C'est toujours là, Lucas ? Aïe. Ah non, elle est sage.
Elle veut pas parler.
Ben non, elle veut pas parler. Ben elle est intimidée, c'est normal. En
fait.
Hein.
Ou alors elle veut une petite récompense.
C'est la radio.
Ça peut marcher.
Voyons. Ah voilà, ça y est.
Du premier coup.
Elle a répondu. Alors parlons un peu actualité et projet. Il y a quelque chose qui arrive bientôt, paraît-il.
Alors oui, effectivement, 11 et 12 avril, le club, comme tous les ans, organise deux concours. Donc c'est à la salle du temps libre à Saint-Paul-les-Dax. Le samedi, ce sera du hooper. Le dimanche, ce sera de l'agility. Et c'est l'occasion de voir... pas mal de monde, puisque je crois qu'actuellement en Hooper, on doit avoir une quarantaine de chiens engagés. En Agility, il doit y avoir 70 ou 80, je sais plus exactement. Mais c'est l'occasion de voir toute la journée. Alors, ce sont des concours qui sont officiels, donc avec un juge, avec des normes, des critères, des règles vraiment strictes. Mmh. Et c'est l'occasion de voir l'aboutissement du travail des maîtres.
Oui.
Outre le fait que c'est très joli à voir, ça représente un travail qui est quand même assez important. Mmh. Et il faut venir nous voir.
Et voilà. Et du coup, ça met en lumière votre besoin de soutien, qu'il soit en bénévole et en sponsor.
Parlons argent.
Allons-y.
Oui, parce que ces concours, en fait, c'est comme tout, ça coûte de l'argent. Nous, on est une association à but non lucratif. Les concours, ça coûte énormément d'argent. Alors, je ne sais pas si on peut dire les montants, mais voilà. Il y a un défraiement, le juge est défrayé, puis il y a toute la logistique qui va autour du concours, la nourriture, les boissons, enfin tout. Plein de choses. On a de la chance, nous, parce que Saint-Paul, nous, la mairie de Saint-Paul-les-Dax, nous met la salle et le terrain à disposition gratuitement, et on les remercie pour ça. Mais ça coûte énormément d'argent, mais en même temps, ces concours sont aussi... ça promeut l'activité, ça permet au plus grand nombre de voir un petit peu ce que c'est, ça crée peut-être des envies d'adhérer. Mais oui, tout ça pour dire qu'on a besoin de sponsors, donc si les sponsors éventuels nous écoutent, surtout qu'ils ne se gênent pas.
Oui. Vous avez déjà des partenaires qui vous aident ?
Alors on a Land Animal Nutrition, qui est à Saint-Vincent-Tyros, qui nous aide pas mal. Ouais, on a des petits partenariats locaux comme ça, mais on est très en demande. Oui. Mmh. On est très très en demande.
Oui, ça c'est le bénévole, c'est la... La force vive de la association, il y en a besoin. Oui.
Alors au niveau des bénévoles, en fait, on utilise nos adhérents, si on peut dire. Mm. Parce qu'il faut. Ce sont des grandes journées. Hein, la journée va commencer, là, que ce soit le samedi ou le dimanche, ça va commencer à 6h30, 7h. Ça se termine. Les concours se terminent en fin d'après-midi. Mm. Mais après, il y a tout. Voilà, il faut ranger les terrains, il faut préparer le samedi, il faut préparer pour le lendemain.
Oui.
Il y a toute une grosse logistique à mettre en place.
Bien sûr. Et puis il faut, avec des bénévoles, on peut faire une buvette, etc., qui est une source de revenus non négligeable pour une association, l'air de rien,
parce qu'on
l'a reçu suffisamment ici pour l'avoir compris.
Ouais.
C'est que ça rapporte de l'argent à une association.
On l'avait fait une année, c'est toujours pareil. Il faut du monde pour tenir la buvette.
Il
faut du monde, mais oui, effectivement. C'est intéressant.
C'est ça, ce petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas bien le milieu associatif. Bénévole, dans une association, ça ne veut pas dire juste prendre, ça veut dire donner.
Oui,
aussi.
Exactement. Voilà. Oui, c'est surtout donner. Ouais, surtout.
Voilà. Eh bien, messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission. Ça s'est bien passé. Elle a été très sage, vraiment. Hein. Bon, vous aussi. Hein.
Oui. Vous aussi. On a été briefés par nos éduques.
Enfin, vous êtes bien
éduqués. Oui. Vous avez des choses à dire, à pas dire.
D'accord. Vous êtes mariés, vous aussi.
Oui.
Voilà.
Aussi.
Je comprends. Eh bien, voilà.
Ah, il y a un chien dans la pièce.
Voilà. Qu'elle nous dit au revoir aussi. Eh bien, au revoir à tous les trois.
Merci beaucoup.
De votre
merci. C'était très sympa.
Merci beaucoup. Au revoir.